Radio Éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 8 juillet 2006. Il fait beau, il fait chaud et vous écoutez la radio. Comme tous les samedis, Éphémère ouvre avec les magazines, suppléments week-end, BD et télévision puisqu'il n'y a pas de Thomas. Et ensuite, le cahier du sport, spécial Coupe du Monde et course cycliste. Et à partir de 15h, analyse d'urine avec Zarma Farah. 17h, le contrôle antidopage est assuré par En Mode Progression. 18h, vie d'ordure où les enquêteurs iront chercher les seringues dans les bennes ordures. 20h, la CTRO expérience. Et oui, il faut bien ça quand même avec l'infirmière. 21h30, Liquid Sky with Diamonds. Et à 23h de la drum and bass avec Breakbeat Experience, c'est jusqu'à 3h du matin. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes en direct sur les 89,1 MHz jusqu'à 5h du matin et aussi sur le net www.radio-fmr.net.
FMR, vous n'avez jamais écouté de radio.
Oui, bon, alors c'est vrai qu'on se la joue un peu, etc. Mais là, je vous dis pas, vous n'avez jamais écouté la radio comme ça. Il fait chaud, il fait lourd, il fait vraiment 40 degrés dans les studios. J'ai un nouveau casque qui me prend la tête, c'est-à-dire tout simplement, les oreilles, elles respirent pas, je crève de chaud. Et pourtant, quand même, on le fait comme si on était des pros. On envoie la musique. On commence le supplément week-end. Bonjour, c'est Xavier avec vous jusqu'à 13h et des pelures avec Ronnie Size Represent featuring Shelly. C'est extrait de son premier album Forms. Oh, ça remonte. Ah oui, ça fait 10 ans. Heroes. I don't know no heroes. They can tell the story.
I can't. give me a hero. Oh, save me. Oh, save me.
Ladies and gentlemen, introducing to you the sounds of now. Come on, we had this again. Come on. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
Bonjour et bienvenue, heureux de vous retrouver sur Radio FMR 89.1 MHz. C'est Supplément Week-end à Scratch avec vous jusqu'à 13h. Il y a des pelures, du sport va arriver en cours d'émission. Thomas n'est pas là, non, Thomas est allé... Oh, en ce moment, allez, je vais le dire, c'est complètement faux, c'est une pure diffamation. Mais bon, en ce moment à Paris, il y a lieu une convention manga qui s'appelle... D'ailleurs, j'ai oublié le nom, c'est assez idiot, puisqu'elle est célèbre, elle est montée chaque année par l'EPITA. Thomas est allé au cosplay, il a dit ok, je veux bien me déguiser en tortue géniale mais à condition qu'elle ait fille avec. Voilà, c'était une diffamation, il n'avait qu'à être là et il se débrouillera après avec sa copine. Bon, blague à part, si vous n'aimez pas la BD, si vous n'aimez pas les séries télé qu'on vous chronique, si vous avez déjà vu tous les DVD qu'on vous a conseillés tout au long de cette année, qu'est-ce que vous pouvez faire? Oh, peut-être sortir un peu, aller voir dehors, prendre l'air. Ah bah, ça tombe bien. Puisque, par exemple, hop, je les remets dans l'ordre rapidement. Il y a ce soir un concert rap anti-prod, CFIUNCC. C'est au Ragtime, c'est à partir de 22h, l'entrée est de 5€ et 3€ pour les ladies. Alors, Ragtime, je rappelle, c'est un bar en sous-sol à la place Arnaud Bernard. Et c'est vrai que l'ambiance chauffe très vite, voilà. Je sais pas, je crois qu'il va faire dans les 36-37 degrés aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. À côté de cela, il y a Rock and Short, la troisième édition du festival a lieu. Un festival qui est annoncé chaise longue sable rock. C'est au Fairfield Café. Ce soir on a Dakota JM. Mardi prochain, ce sera Denis, scène ouverte, mercredi Archibald One et plein d'autres choses. C'est tous les soirs, start à 22h. Et l'entrée, ben, il n'y a pas d'entrée, c'est participation tout simplement. À partir des consommations, buvez avec modération, c'est un bar quand même. Ceci dit, à côté de cela, les Vents du Sud, c'est 170 avenue de l'Espiné, c'est à côté de l'université Rangueil, du complexe scientifique. Il y a NLS Fest, Metal Fest, Jenks and Psychonix Dreams, mais il y a C'est au Vent du Sud, c'est à partir de 20h et l'entrée est de 6€. Monsieur du sport, c'est 6€, je vous prie. Non, les lunettes de soleil sont pas acceptées sur le plateau. Merci. Il arrive à se mettre en place. je comble pour l'instant. À Carmo, c'est à 3/4 d'heure de Toulouse. Et plus, j'ai pas ma voiture. Garden Party, accès au site et parking gratuit. Et figurez-vous qu'il y a de quoi déconner aujourd'hui. Il y a du tournoi streetball en 3x3. Il y a concours de dunks. Il y a un tournoi de beach volley en 3x3. Du sport ne fait pas les commentaires, malheureusement. Battle de danse avec Price Monkey, grave contest, danse sportive. Et après la soirée avec de la musique avec West Indies, en soirée pré-vente 8€ si vous les avez pensé à l'acheter, et 10€ sur place, demi-tarif pour les filles. Ben voyons, pour amener de la girls, les gars. DJ Lawless, Paris Beach 2006, le zouk le plus long. DJ Red Ice, dancehall coupé, décalé, hip-hop. Je me demande si c'est le même DJ Red Ice que je connais, qui fait de la drum and bass, je rappelle. DJ Lady du R&B Toulouse Street Fabulous et DJ GDS, double champion de France de Scratch. Et avec guest et tout ça, donc c'est au Cap Découverte à Carmont à partir de 20h tout à l'heure. À côté de cela, les musicophages et Anexia, ça très bien avec The Orbs que je mets là actuellement en fond sonore. Vous propose donc le off du festival Les Siestes Électroniques. Vous savez le principe des siestes électroniques, si vous allez à la Prairie des Filles, vous avez un DJ qui vous passe ce genre de musique. Très éthéré, sauf que ça a 15 ans, donc il passe des trucs un peu plus récents. Donc figurez-vous que le 10, c'est-à-dire lundi prochain, Dux, Core, Call et The Duelist, ce sera donc une soirée de live électronique en off des musiques des siestes électroniques présentées par les musicophages. C'est à la médiathèque associative rue de la Bourse et c'est à partir de 22h. Participation libre et coopération avec Anexia. T'as raison, du sport vaut mieux mettre du vent parce que tu vas voir ce qui arrive comme BD. Il y a de la vague bien fraîche, tu vas adorer ça. Total maîtrise. J'en parle tout à l'heure. Zou. T'es en train de rebooter le ventilo, d'accord. Ok, il y en a besoin. Il fait vraiment chaud, je vous jure. Il fait 40 degrés. Hein, et lui, je ne sais pas comment il fait pour tenir avec un pantalon complet, mais moi, je suis carrément en surf. En tenue de surf. On continue avec la troisième biennale des cultures et pays rock, c'est Estivada. C'est à Rodez du 17 au 22 juillet. On aura le temps d'en reparler. Ceci dit, si vous cherchez encore plus de plans sur l'ensemble de la région, de la France et même de l'Europe, sachez que le Presto, c'est un magazine qui vient du Nord, qui tous les ans, pour l'été, ils font un numéro spécial avec l'ensemble des programmes 400 festivals de France et d'Europe et même de Navarre. C'est donc le numéro double 102-103, il est gratuit et vous pouvez venir le chercher au studio de la radio. On a 2 mètres cubes encore à fourguer, ce serait bien parce qu'on a quand même du mal, il faut faire une vraie escalade pour descendre au studio, c'est quand même pas pratique. Voilà. Accessoirement, qu'est-ce que je pourrais annoncer? Oh, qu'hier il y avait Toulouse Carnet, deuxième édition. C'était un pique-nique. Toulouse Carnet, c'est la décalque des Paris Carnet, c'est-à-dire que les blogueurs, c'est-à-dire les gens qui ont des weblogs, vous savez, où ils racontent leur vie privée, leurs petites recettes, qui prennent en photo leur chat, leur jardin, ou qui parlent de BD, des films qu'ils ont vus, etc. Il n'y a pas que nous, je vous rassure, il y en a d'autres, il y en a tout plein à voir. Sur le site pataphysique.net, pataphysique.net. Et à la différence des Skyblog et autres Energy Blog, les gens parlent français, c'est-à-dire qu'ils écrivent en français, il n'y a pas de SMS et en général même on s'engueule des fois quand il y a une erreur, puisqu'on est lu, il y a un peu de tout, c'est vraiment sympa, j'ai eu vraiment plaisir à retrouver les blogueurs de Toulouse, à différence de Paris où c'est très guindé. À Toulouse hier c'était pique-nique, donc la démarche était, je dirais, plutôt chaloupée pour aller chercher les olives de l'autre côté de la nappe et tout ça, c'était très sympathique, donc je leur fais une très amicale salutation, et tout simplement parce que voilà, parce que c'est vraiment l'expression citoyenne, comme certains disent. Non, je déteste ce terme. Tout simplement c'est des gens que vous rencontrez dans la rue, etc., qui ne sont pas des célébrités et qui racontent un peu leur vie comme ça, sans réelle prétention. C'est plutôt pour le bonheur, faire partager un peu ce qui les fait triper, ce qui les fait kiffer, tu vois, en langage de Jones. Non, il n'y a pas que ça. Et vous êtes sur FMR, midi et 15 minutes, 89.1 MHz, c'est le supplément week-end. Du sport s'installe confortablement, il a déjà rédigé sa partie télé, ça tombe bien, Duce. T'as ramené des bouquins, je vois, hein. T'as ramené des bouquins, là. Non, tu m'entends? Tu m'entends pas? Du sport. Il est en train de rechercher les niveaux.
Yo,
comment vas-tu?
Ça va.
Alors
tu sais que ta programmation musicale va être complètement chamboulée.
Oh merde.
Parce qu'à partir de maintenant.
Suis levé à 7h pour la faire.
Non mais c'est pas grave. tu vas prendre le premier disque de la pile.
Ok.
Et on va commencer par le numéro 44, mon petit gars.
Oh punaise. Et quand même, t'as vu que j'ai 4 BD, quand même j'ai 3 pages de texte.
Mais c'est pas grave, t'en fais pas. J'ai de la musique. Okay. On va le faire comme ça, tu vas voir.
On va le faire en live, on est en direct, ouais. Et en public, et nous, on n'est pas de la radio commerciale. Ni de la radio de service public. Radio Le Mou, Radio Le Mou, radio pour les jeunes qui sont mous.
Ouais, ouais, avec les programmes qui sont bétonnés sur ordinateur et tout. Si tu veux passer un autre morceau, tu
Rien
peux pas.
Rien à caguer. Rien à caguer, stop.
Allez, vas-y.
Donc tu m'as dit quelle plage?
Ouais, ouais, alors le numéro 44.
2, 3, 4, allons-y, c'est parti, je m'inquiète. Je ne sais pas ce qui m'attend.
Ah là là, si tu savais.
Déjà, la compile me dit quelque chose, donc je m'inquiète vraiment. Lecteur CD quand tu veux. Ah oui. pas comme Christ. Pour ce manche lâchement que je passe du Fred Rabold pendant la transition d'antenne. Ah, punaise. Forcément, c'était le spin-off. Une bonne raison quand même pour me faire passer Dynasty.
Absolument, absolument. C'était Dynasty, donc vas-y, vas-y.
Attends, il faut que je recale le CD et tout le bordel.
Alors ouais, c'est le 55, c'est ça. Hein.
Ouais, le suivant. Hop. Stock.
Mais non, mais pas tout de suite.
Bon d'accord, ok. Hop.
C'est pour après.
Mais pour après, ouais, mais enfin, je vais parler d'un truc qui est grave quand même pour cette émission. Zou, 1, 2, 3, 4, 5. Zou, on y va. Avec une série d'alpinisme, s'il te plaît.
Ah.
Et pas de n'importe qui. Je sais que ça, tu vas l'aimer, mais malheureusement,
je savais pas que Frison Roche dessinait. Jiro Taniguchi, ce nom me dit quelque chose.
Et oui, c'est l'un des mangaka les plus connus en France grâce notamment à Moebius qui lui a fait faire
Icar, c'est ça.
Icar, exactement.
Icar, voilà.
Et qui est surtout connu quand même pour ses dessins où il aime beaucoup représenter la nature. Et là, il s'agit de K, qui est une histoire complète qui est scénarisée par Shiro Tosaki et qui est donc dessinée par Jiro Taniguchi. C'est dans la collection Made in Kana chez Dargo. Et non, ce n'est pas le K de Dino Buzzati. Non, c'est pas des nouvelles surréalistes, loin de là. K, c'est le surnom qu'on a donné à chacun des 14 montagnes dont le sommet dépasse les 8000 mètres. Le défi ultime des alpinistes, dont le plus haut est resté invaincu jusque dans le milieu des années 50, puisque l'Himalaya, c'était Haïlé, je ne sais plus, qui l'avait percé, qui avait planté son petit drapeau tout en haut. L'histoire se passe près du sommet du monde, justement, là où la mythologie hindoue aurait placé les dieux.
Hillary, tu veux dire?
Oui, et pardon.
Hillary.
Ouais, ça m'apprendra, j'aurais dû écrire le texte.
Et le Sherpa Tenzing.
C'est une encyclopédie, ce mec. Dans l'histoire, K n'est pas un dieu ni une montagne, mais un humain qui vit dans un village népalais. Les bruits courent sur lui. Certains prétendent avoir reconnu en K un alpiniste japonais porté disparu. K est un grimpeur exceptionnel dont très peu de défis lui font vraiment peur. Mais pour le convaincre de grimper, il faut qu'une vie soit gravement en danger. C'est la légende des grimpeurs de l'extrême, celui qui arrive quand une expédition tourne mal, qui n'y a plus aucun espoir, et qui connaît mieux la montagne que les plus aguerris des Sherpas. Il apparaît alors tel un sauveur, et ne se met pas en route pour l'argent, mais uniquement par défi. Le défi de vaincre ce que la personne en détresse et suréquipée a cru pouvoir dompter. Mais on est dans un monde vertical, froid, où l'air se fait rare et les éléments ligués contre l'homme. Le toit du monde est le domaine réservé des dieux. Shiro Taniguchi est un mangaka, un dessinateur de manga, qui adore dessiner de très grands espaces vierges. J'en avais déjà parlé à propos de Seton, le naturiste qui voyage, où il parlait d'une certaine vision de la conquête de l'Ouest. Un don qui s'exprime superbement dans les Sims Himalaya. Précédemment traduit en France, la série Le Sommet des Dieux, dessinée par Jiro Taniguchi, mais scénarisée par Baku Yumemakura, était un poil plus réaliste, car certains phénomènes décrits dans K sentent à planer la ficelle de film catastrophe. Je n'ai absolument pas l'expertise ni les connaissances, mais certains ressorts du scénario me semblent un peu exagérés, et vos commentaires sont les bienvenus sur le site de l'émission. Cela ne gâche en rien la lecture. L'avantage de K sur Le Sommet des Dieux, c'est que c'est un one-shot. Donc une bonne introduction, peu coûteuse à la série pour le lecteur qui se passionnera pour les défis humains au plus haut sommet de la planète. Car si certaines agences de voyage spécialisées proposent à des fortunés voyageurs de grimper sur les sommets d'un cas, et je te monte en hélicoptère, t'as plus que 200 mètres à faire, tu vas voir, c'est facile. Bah voyons. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un environnement qui est particulièrement extrême, où tout revirement devient dangereux et peut tourner au tragique. K, un album au graphisme époustouflant, dessiné par Jiro Taniguchi sur un scénario de Shiro Tosaki, C'est dans la collection Made In, la collection Kana chez Dargaud. C'est un album en format A5 qui se glisse relativement facilement dans les sacs et qui permet vraiment d'apprécier l'ensemble du graphisme qui est vraiment superbe. Ça veut dire qu'il a pas beaucoup de texte, donc il m'a dit allez vas-y comble. Ah bah on va appeler 3 drôles de drame. Si quelqu'un a leur numéro de téléphone d'ailleurs. Ça y est, j'ai trouvé la référence. Je peux vous dire, c'est du gros et c'est vrai que ça fait 2 semaines qu'on a laissé passer. Je suis content, j'ai trouvé tout seul. Si on passait à une destination, je veux dire, un petit peu plus chaude pour les vacances d'été, on cherche un sport moins extrême et une destination légèrement plus abordable. Du sport, jette un œil à ça. C'est Georges Abolin ou Olivier Pont. Olivier Pont n'est pas totalement un inconnu. On a déjà parlé pour certaines BD de gag en une planche. Ça s'appelle Total Maîtrise. Le 3e tome vient de sortir chez Vent d'Ouest et s'appelle Hawaiian Style. Pourquoi ne pas faire du surf dans les grands spots d'Hawaï? Vous savez, le 52e état américain. Ben, la bande, pardon, le possi de Total Maîtrise n'y est pas allé exactement pour ça. C'est Pascaline, l'ex de Terrence, qui vient de la plaquer et de l'y emménager. Alors, ni une, ni deux, ni trois, ni quatre, et ben, les quatre meilleurs copains s'embarquent dans l'aventure. Le premier vol, Aloha Airlines, les vagues de rêve, les filles au teint hâlé, les vagues qui roulent et les légendes du surf. Faut dire que le soutien d'un sponsor qui cherche à avoir de belles photos de vagues roulées, ah, ça aide. Et les vagues, il n'y a pas que les vagues qui sont bien roulées, pardon. Oui, mais sauf que ça tourne au vinaigre, à peine embarqués sur place, leur contact se trouve être à Rasta, limite, largué. Et heureusement pour eux, francophone. Bref, un voyage au pays des vagues légendaires qui tourne vite au concours de plans particulièrement foireux. On atteint les tréfonds. On rigole pas mal sur les mésaventures de ces lascars, le rythme de gag en une planche donne une bonne dynamique. Et comme l'album a une histoire, il a une cohérence d'ensemble. Ça surfe peut-être sur la mode du « salut, ça farte » et on le sent un minimum. Mais c'est très amusant de voir des habitués du surf des neiges se heurter aux vagues des tropiques. Une déferlante de fou rire, où tout aussi bien l'opportunisme et la parano américaine que la candeur et la bêtise des touristes français sont frottés à vif avec du gros sable. Le Aloha Spirit n'en ressort pas grandi, c'est méchant, ça fait mal, et on en rit. C'est vrai quoi, il y en a marre de ces frimeurs qui se la jouent sur leurs planches. Ils sont pathétiques, je te les ai cassés. Total Maîtrise, le 3e tome de Georges Abolin et Olivier Pont, s'appelle Hawaiian Style et il vient de sortir chez Vent d'Ouest pile poil pour l'été. We'll be right back. lecteur CD de mes couilles. Pardon, il y a des filles qui écoutent. Lecteur CD de mes deux bouboules là. On va essayer de s'installer. Allez, 1, 2, 3, 4, zou. Ah, voilà. Bon, je sais que mon CD il est un peu vieux, mais quand même, voilà. Quand ça veut. Oh, on va dans la finesse, mince. J'en ai marre de dire des grossièretés à longueur d'émission et tout. Je vous ai réservé une chronique en or, une petite merveille, vraiment le petit coup de cœur. Petit parce qu'après il y en a un très gros. C'est Julien Nel qui fait une excellente série qui s'appelle Lou. Le troisième tome s'appelle Le cimetière des autobus. C'est dans la collection Tcho chez Glénat. Tcho, c'est la collection qui est menée par le créateur de Titeuf. Et il a vraiment trouvé une petite merveille. Lou, c'est une petite fille qui est au collège, dont la famille se limite à sa mère et sa mère grand. Elle a une très grande imagination, une très grande sensibilité. C'est aussi une série très prometteuse. Alors, quoi qu'il y a dans ce troisième tome? Ah bah ça y est, la mère de Lou, elle trouve enfin son bonheur. Et l'homme de sa vie du moment, c'est le voisin, Richard, à la veste berger. Ça aurait pu être au cœur de Lyon, mais bon, quand même. Un bonheur tellement grand qu'il fait tomber à la coup de masse la cloison entre les deux appartes. Et du coup, l'inspiration lui revient pour terminer son roman de science-fiction, lequel est enfin publié et donc, enfin, des rentrées d'argent, des pépettes. C'est parti que les pépettes, ça sert à payer le loyer à une concierge particulièrement tenace. Malheureusement pour Lou, sa grande copine Mina lui fait la tête. Tristan, son amoureux, a déménagé, son immeuble remplacé par un cimetière d'autobus. Bah oui, les autobus meurent aussi un jour, et tels les grands pachydermes, ils se cachent pour mourir. Bref, Lou est complètement déboussolé pour sa rentrée. Mais elle va se faire plein de nouveaux amis. Et elle arrive à un âge où les hormones commencent à faire leur travail. Oui, je parle de la puberté en termes cryptés, parce que Radio Éphémère est une radio de grande tenue et d'une certaine classe. C'est pas comme les radios commerciales irresponsables comme Foufoun, Skyrap ou Le Mou. On va pas casser le ton de la BD en utilisant à cette heure des mots comme Lolo, Roploplo et Nicho. Non mais, laissons les Robert à leur place. Bref, tout cet aparté pour dire que dans l'appart de Lou, ça bouge autant que dans sa tête, et ça lui chavire son petit cœur de petite fille. Quel style va-t-elle adopter? Va-t-elle tourner gothique ou Kaira? Un dessin très naïf, simple, qui justement amplifie le décalage de la plupart des gags. Un découpage qui joue sur la prépublication par planche et la cohérence de l'album d'une manière plutôt étonnante, capable de passer du contemplatif d'un dessin qui prend intégralement toute une page à un rythme extrêmement serré. Un ton à la fois très terre-à-terre ou carrément rêveur qui se prolonge jusque dans les plages de garde. Le livre s'ouvre ainsi sur un résumé en forme de jeu de loi et se termine par son journal personnel. C'est un incroyable bonheur à lire par l'inventivité permanente de l'auteur, Julien Nel, qui montre qu'il maîtrise parfaitement son histoire, mais aussi les supports et la chapeau. Lou, le troisième tome, s'appelle Le cimetière des autobus, et Julien Nel, c'est dans la collection Tcho, chez Glénat. Et il est midi 30 et la régie me fait signe. Du sport. On va y aller. On est prêt, on a mis la lumière, les jingles spéciaux sont en route, l'habillage spécial aussi, on a changé la lumière du studio, les caméras sont en place sur un plan américain et on entame donc les news.
And now, the news.
Le fantasy mondial du supplément week-end vous est résumé par du sport. T'es pas prêt? Tiens, voilà la feuille. Je t'avais dit, Dus, tiens-toi prêt. Je sais pas, mais chaque fois qu'on a voulu le faire, à chaque fois, il y a une bêtise de fait. Dernière page.
Dernière.
Voilà. Bonjour du sport.
Bonjour, compte rendu de la cinquième semaine du supplément week-end éphémère Fantasy Mondial.
On l'a refait.
And now, The News.
Midi 32, le fantasy mondial du supplément week-end vous est résumé par du sport. Bonjour du sport.
Bonjour, compte rendu de la cinquième semaine de du supplément week-end FMR Fantasy Mondial. Comme vous le savez, on a joué cette semaine les deux demi-finales. On commence le débrief par une grosse polémique autour de l'arbitrage concernant le match Star Wars contre les X-Men. Certains spectateurs prétendent avoir vu le ballon dériver illogiquement.
Ah bon ?
Ouais, mais c'est les nouveaux ballons ça, hein. Adidas, merci Adidas. L'arbitre Kojak n'a pas relevé directement ces phénomènes, néanmoins les instances de la fédération ont souhaité tirer ça au clair. Les Jedi et Jean Grey sont actuellement entendus par la commission d'arbitrage pour utilisation abusive de la force. Revenons au match. Kitty Pryde a découvert les secrets de l'armure mécanique de Vador, et ceci suite à une malencontreuse bousculade à la réception d'un corner. Vador expulsé pour l'étranglement de la petite mutante s'en est violemment pris au corps arbitral. Constitué de métal, il n'a pas fait le poids face à Magneto. Privé sur son aile de son côté obscur, avec une défense pas suffisamment solide, les Jedi de Star Wars n'ont pas brillé. Et sous les actions de Cyclope et de Tornade, le match s'est conclu 2-0 sans rappel ni suite. Luke Skywalker est reparti dans sa lointaine galaxie. L'autre demi-finale opposait les Shaolin Soccer contre la Justice League of America menée par Superman. Là aussi controverse, Tête de Fer a porté réclamation contre Lex Luthor, lequel lui aurait proposé des pots de vin, tentative de corruption, exploitation de sa réputation sulfureuse. La fédération enquête et écoute le commandant Picard qui arbitre. Affaire à suivre. Sur le terrain et dans les fêtes, les Shaolin Soccer n'ont pas pesé lourd face à la horde des justiciers volants. Non, c'est presque la même chose. La gardienne de but Shaolin. Non, mais là, je suis en train d'essayer de tacler mon scénariste pour ça. La gardienne de but Shaolin est parvenue à neutraliser Superman grâce à la maîtrise des éléments de l'air, mais elle ne put rien faire contre les tirs ultra rapides de Flash. Et ouais. La défense a eu beau marquer John et Wonder Woman, mais ils ont eu du mal à intercepter la balle. Finalement, l'équipe chinoise est retournée dans son monastère, défaite 4-1. Ce qui nous mène à l'affiche pour la finale, une confrontation entre les X-Men et la Justice League of America. Dernière prestation en fait pour les X-Men avec le troisième volet déjà en salle. Wolverine qui va continuer sa carrière professionnelle par un film, mais tout seul de son côté. Superman de son côté, trois bons films et un quatrième largement loupé, néanmoins porté par des séries comme Lois and Lane et surtout Smallville, ainsi que les plus anciennes. Peut-être on peut supposer qu'il est en très grande forme. Verdict dans les salles dès mercredi. Donc finale mythique entre les héros Marvel et DC. C'est le dernier match et il sera prochainement commenté, analysé en détail par Thomas.
Et Thomas, donc, qui a assuré la coécriture de ce bulletin spécial. Le supplément week-end revient après les publicités sur Radio FMR.
Hello, who's that speaking, please?
Le lavage du cerveau, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert?
Le lavage du cerveau ne sert pas à grand-chose. Mais vous pouvez en profiter tous les lundis sur FMR 89.1 avec le Chibi Bitchi, le Grand Bazar Bernard Granchet. Rediffusion n'importe quand, n'importe comment sur FMR. Rediffusion du Chibi Bitchi n'importe quand.
Alors, d'après vous, combien de footeux sont morts d'une crise cardiaque pendant la dernière saison de Bundesliga?
3?
T'aurais suivi Ça c'est du sport, tu le saurais, mon gars.
Ça c'est du sport, tous les samedis, 13h sur FMR. Y'a pas que les mauvais gestes au foot.
Stop!
Du 20 au 23 juillet, es la hora de bailar con el Festival Internacional de Benicassim. Situé sur la Costa del Sol en Espagne, les pieds dans l'eau, cet incroyable festival propose cette année une programmation hollywoodienne. Plus de 150 artistes, de Pixies aux Strokes, en passant par Dionysos, The Rakes ou Franz Ferdinand, c'est tout simplement démentiel. So if you're lonely, La crème de la scène pop-rock internationale se bouscule sur les 5 scènes du festival. Ajoutez à cela les fêtes sur la plage, du théâtre de rue, des courts-métrages, du farniente y un sol muy caliente. Vous l'aurez compris, le festival de Benicassim est à ne pas manquer. Et même que la Ferrarock vous offre des passes pour que vos vacances soient vraiment musicales, rendez-vous sur le www.ferrarock.com, le festival de Benicassim du 20 au 23 juillet. Tous les renseignements, www.fiberfib.com.
Nous partons dans l'espace, loin, très loin dans l'espace.
C'est comme un grand voyage.
Un grand voyage.
Apprêtez-vous à entrer dans une nouvelle dimension.
Mais c'est de la science-fiction.
Rendez-vous dans l'espace, tous les lundis 19h, sur FMR, FMR, FMR.
Ah oui, il fait beau. Moi, je dis que ça manque d'un petit cocktail bien frappé là sur le bord de la piscine. Wow.
Exciting and new. Come aboard. We're expecting you.
N'appelez plus, la place pour le Pacifique Princesse a été gagnée. On a trouvé quel était le point commun.
Life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you.
Ça c'est la version originale donc, qui est chantée par un mec qui s'appelle Mark Jones, me semble-t-il. Et il y a une deuxième version qui a été chantée après par Dionne Warwick.
Is something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance. And love won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore.
C'est vraiment horrible parce que la BD que je vais faire, elle est tout sauf sympa, rigolote et tout. Et pourtant, c'est un énorme coup de cœur. C'est une putain de série qui est absolument géniale et que je trouve absolument énorme et qui donc vient de se terminer à l'instant avec un sixième tome qui était très, 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 très attendu. Puisqu'il y a eu carrément 6 mois de retard et tout. Et tout le monde disait punaise, punaise, punaise. Et on nous a dit ah franchement ça va déchirer tout. Et effectivement, Denis Bajram vient de terminer Universal War One. Le 6e tome conclut sa série. Il s'appelle Le Patriarche. C'est dans une nouvelle structure éditoriale qui s'appelle Le Quadrant Solaire. Et dont je vais parler juste après la chronique. Résumé des épisodes précédents, la Terre a été détruite. Le berceau de l'humanité fut incinéré, tout comme 20 milliards d'âmes, par un trou noir apprivoisé dans un chantage financier de multinationales. Pardon, multiplanétaire. Et donc, l'ensemble de la race humaine a été mise en esclavage par ses propres pères, devenus maîtres d'un conglomérat d'entreprises, concessionnaires exclusifs de la conquête spatiale. Privée de ses origines, celle-ci ne peut que se soumettre. Oui, mais le reste de l'escadrille Purgatory a peut-être une chance de se remettre les choses un petit peu en ordre, ayant fortuitement découvert le voyage instantané dans l'espace, et peut-être le temps. Après avoir détruit la base du trou noir, d'où les compagnies industrielles de colonisation ont explosé la Terre, l'escadrille Purgatory s'est enfuie vers Mars. Terre 3, me dit la régie et la police politique. Kalish a fait une tentative de suicide, reste à le sauver. Mais comment trouver un médecin qui acceptera de soigner un fugitif dans un univers où tout est tracé, DRMisé, et où tout le monde est fliqué et aucune contestation possible? Et mêlant art, science et politique fiction pour les thèmes, graphisme ultra réaliste et dessin satirique manière presse, l'album est à lecture multiple et sa conclusion donne une irrésistible envie au lecteur de se refaire à la loupe l'ensemble des 6 tomes de cette histoire complète. Car les détails comptent énormément. Bajram termine ici son chef-d'œuvre. Et c'est au dernier tome qu'on mesure l'incroyable travail de préparation qu'il a mené dans son scénario pour que tout tienne de bout en bout. 8 années d'un travail titanesque pour une bande dessinée appelée à devenir un classique du genre. Car mener une histoire de science-fiction en longueur, quand le voyage dans le temps en est un élément absolument important, eh ben c'est très 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 loin d'être évident. Pour ceux qui ont lu La Guerre éternelle, Le Voyage dans le temps, ou par exemple qui ont vu la trilogie Retour vers le futur, ils sauront que la cohésion des événements et leurs conséquences en rendent l'écriture extrêmement périlleuse. Denis Bajram a tenté d'en faire une production millimétrée, une mécanique infernale où le lecteur n'aura aucune chance d'y trouver une faille. C'est réussi, mais ça en est glaçant. Merde, moi qui croyais avoir foi en l'humanité. Quel con, Denis ! Réussite critique et commerciale pour cette série dès le premier tome. Un fan avait par exemple repris le début pour en faire une animation en flash. Un signe du succès et qui sait, peut-être d'une adaptation. L'auteur de la série joue aussi le jeu en accueillant un site non officiel sur sa propre série. Ce dernier tome est le dernier à être publié dans la structure éditoriale qu'a créé Bajram avec les éditions Soleil. Quadrant solaire, et dont sa compagne scénariste Valérie Mangin est directrice de collection. Consécration pour lui qui n'avait pas caché son désir de tutoyer les étoiles depuis qu'il est allé à Kourou. Je félicite Denis Bajram que j'avais interviewé pour Cryozone et pour le deuxième tome de la série, parce que là, franchement, il nous a mis mal. Denis Bajram, Universal War One, le dernier tome vient d'arriver, il s'appelle Le Patriarche, chez Quadrant Solaire, disponible chez vos libraires, et franchement, c'est une claque absolument monstrueuse. Midi 43 sur la poubelle des radios, c'est FMR 89.1 MHz. Moi, j'ai une reprise non créditée par un groupe mexicano que a nosotros les gustas mucha, 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 mucha. Boost! Repris par Titan sous le nom de Come on, feel the noise! Et oui, parce que là-bas, c'est pas Starsky Hutch, c'était cette musique, voilà.
Ouais,
on dit pas
américaine.
De suite ce que c'est, parce que sinon ce serait trop facile. On les laisse mariner un petit peu. Et moi, juste une chose à te demander, mon cher du sport. Tu sais que mon émission n'est pas une bibliothèque de prêt, donc c'est bien beau de me ramener des BD. Mais alors, il va falloir que tu me dises ce que tu as pensé de chacune. Que ça soit.
Allez, boule.
Et Pao.
Bon, et Pao de Vink. Moyen, bon, l'histoire est pas mal, mais bon, j'aime pas trop le dessin.
Enfin, ouais, le dessin, il faut apprécier,
ouais,
c'est pas évident.
Ouais,
hein.
c'est plus strip peinture, quoi, on va dire. Hein. Le dessin, la technique, hein, c'est aquarelle.
À fond.
Donc,
c'est impressionnant, hein, techniquement.
Ouais,
techniquement,
c'est pas mal, mais bon, justement, disons que c'est un petit peu trop, moi, je trouve, justement, quoi, pour une BD, quoi. À la limite, tu vois, c'est trop riche, picturalement parlant. Par rapport à la BD, par rapport à l'histoire qui est, bon, un petit peu ledge, mais enfin, c'est la dernière d'une série, me semble.
Non, la série continue.
Ah bon, la série continue, ok. Voilà. Donc, Hepao chez Vink. Ensuite, Les démons d'Alexia, bon, ça c'est pas mal, moi j'ai bien aimé.
C'est énorme.
Franchement, hein, c'est, bon, on va dire ça.
Surtout que t'as pris en cours, mais.
Ouais, mais enfin bon, c'est un trip un petit peu X-Files, mais plus branché sur la religion, la sorcellerie, la magie noire, magie blanche et tout, c'est pas mal. C'est bien foutu en tout cas, hein, ça peut donner
un
bon plan.
C'est ce que je disais, il y a des détails glauques mais qui sont bien détournés quand même, ça paraît dans Spirou. C'est bon. Et alors ça.
Eh ben c'est bon, hein, on a trouvé les les descendants, hein, on a trouvé les héritiers, ceux qui vont continuer l'œuvre de Blueberry, le bon western avec le bon personnage, le solitaire. Là, c'est Durango, hein, d'accord.
Qui en est à son 14e tome, hein, quand même.
Ouais,
celui-là.
Ouais, non, mais ça marche
et
bien,
donc,
hein, c'est excellent.
Et donc, East Wolf a cédé le graphisme à Thierry Giraud. Il y a plein de gens qui disent ah ouais, mais ça ressemble trop à East Wolf. Moi, justement. Ce graphisme
qui ressemble vachement à un certain Giraud, hein, pour un certain Blueberry, quoi.
Ah, c'est pas aussi crade, hein.
C'est pas aussi crade, mais enfin bon, c'est dans le même esprit, hein. De toute façon, hein, pour donner une idée à ceux qui connaissent pas du tout, hein, bah, c'est le même esprit, de toute façon, quoi. Le même genre d'histoire, des décors, un petit peu d'action, c'est pas mal, c'est vraiment bien. Voilà, ben ok, t'es content ?
Ouais.
Bon.
12h49, c'est du sport.
Ah ouais. Alors, pour parler du bonhomme dont on a illustré musicalement un petit peu avant la vie, l'ensemble de la vie, hein, qui vient de décéder d'ailleurs, hein, qui vient de décéder le 23 juin dernier. Moi, j'ai appris la nouvelle, figure-toi, sur France Info, quoi, pour te dire que bon, c'était quand même un mec assez important. Hein.
Mais extrêmement important, puisque c'est le type dont les séries ont été vues dans le monde entier, absolument partout.
Voilà.
Et en long, en large, en travers. Hein.
C'est, je pense que si on demandait à un panel représentatif quelles sont les 10 séries que vous connaissez le mieux, que vous aimez le mieux, un truc comme ça, je suis sûr qu'il y a un tiers de séries sont des séries qu'il a produites, hein, sans problème. On parle d'Aaron Spelling. Donc Aaron Spelling, qui est mort le 23 juin dernier. Bon, bah ok, il a bien vécu sa vie, hein, tranquille, hein, 83 ans. Bon, ok, hein, avec une fille qui a même pas 40 balais, là, Tori, sa petite fille, là, la blonde, la un petit peu salope, la copine de Shannen Doherty dans Beverly Hills. C'est la blonde là, qui est tout le temps avec elle.
Tu sais, moi,
fille,
j'ai jamais suivi Beverly, c'est, je connais même pas la musique.
Ouais, mais enfin bon, c'est pas une raison, quoi. C'est pas une raison. Papa Spelling, qui a commencé la télé il y a vachement longtemps. T'étais pas né, peut-être moi non plus, certainement, hein, de toute façon.
Non, à l'époque, les producteurs étaient les rois.
Ouais, alors parmi les plus connus, hein, et pour te dire, hein, j'ai pas fait le total, hein, j'ai pas additionné, mais je t'ai fait le nombre d'épisodes de chaque série. Beverly Hills, c'est parmi les plus connus, donc, d'Aaron Spelling. Beverly Hills, 245 épisodes. Dynasty, qu'on a écouté avant, 217 épisodes. Charlie's Angels, les drôles de dames, 109 épisodes. Starsky Hutch, 88 épisodes, là il est resté léger. Love Boat, la croisière s'amuse, 255 épisodes. Fantasy Island, l'île fantastique, 152 épisodes. Melrose Place, 227 épisodes. Et il y en a d'autres après, il y a toute une tapée de séries qui sont un petit peu moins connues parce que bon, bah, elles sont moins récentes, on va dire. On peut dire que vraiment il a connu son heure de gloire avec les gros cartons qui ont été dans la fin des années 70, Starsky et Hutch, puis début des années 80, hein, Dynasty, c'était pour répondre à Dallas, bien entendu. Mais après, il y a eu le Drôle de Dame, Love Boat, Fantasy Island et toutes ces bluettes absolument charmantes.
Oh, non, tu as pas traité les sorcières, les sœurs Halliwell de bluettes. Hein.
Ouais, j'avais oublié Charm d'ailleurs. Hein, j'ai pas noté, j'ai oublié complètement. Bah, ça me paraissait évident de toute façon.
C'est vous dire, c'est en plus, il a continué très récemment. Et dans le premier épisode de Charm, qu'est-ce qu'on voit à la télé? Non, c'est l'épisode où elle remonte le toit, elle revient dans les années 70, et qu'est-ce qu'on voit à la télé? Mod Squad, une des séries qu'il a produites.
Mod Squad, une série qu'il a produite de 68 à 73, 124 épisodes quand même, hein, tu vois.
Shannen Doherty
d'ailleurs, qui joue dans Charmed, et qui était la vedette, donc, qui était la vedette principale dans Beverly Hills, et qui s'est barrée au bout d'un certain nombre de saisons parce que bon, bah, elle avait un caractère un petit peu spécial, on va dire. Elle était un petit peu plus entière que les autres, certainement. Et bon, elle s'est barrée de la série avec perte et fracas. Et Aaron Spelling lui a fait la gueule pendant vachement d'années, mais elle a quand même reprise pour tenir l'un des rôles principaux dans la série Charmed. Et on a vu que ça a bien marché, hein. C'est-à-dire que bon, bah, ce mec avait une grosse rancune, mais il a su que, bon, à un moment,
il sait reconnaître le talent.
Artistiquement parlant et financièrement parlant, ça valait le coup de tenter le comeback de Shannen Doherty dans une grosse série comme ça, et on a vu que ça a bien marché, même si par la suite elle s'est fait dégager par Alyssa Milano aussi. Bon bah on peut dire que il a bien entretenu dans cette histoire le panier de crabe en ce qui concerne les nanas de Charmed. C'était assez rigolo.
Ça devait envoyer
grave de toute façon. Outre Mod Squad, donc série des années 70, il a commencé dans les années 60 avec une série qui s'appelle Daniel Boone, c'est un trappeur canadien qui est assez célèbre, plus du côté des États-Unis, bien entendu. 165 épisodes quand même, de 64 à 70. Il a fait aussi L'Homme à la Rolls, qu'on connaît un petit peu mieux parce qu'il y a eu deux versions. Il y a la première version qui est très très ancienne, de 63 à 66, 81 épisode qui s'appelait le Burke's Law en version originale, et on a tenté une ressucée en 94-95, c'est cette version que vous devez peut-être connaître, avec seulement 27 épisodes. L'intérêt au départ de la version originale, ben, c'est qu'il y avait Jane Barry dedans, Jane Barry jeune, donc c'était un des gros 5 sex symboles des années 60, avec d'autres tels que Rock Hudson et toute la bande, mais Jane Barry, attention, oulala. Et on l'a remis dans la série 94-95. Et là, c'était pas vraiment un cadeau. C'est peut-être pour ça que, bon, outre les fans éplorés de toujours de Jane Barry, les autres ont pas tellement accroché. Il y a également eu Heart to Heart, Nathan et Jennifer, Pour l'amour du risque.
J'ai pas branché mon baladeur, t'as du bol.
Ouais. Je l'ai cherché là sur la compile, j'ai pas trouvé. Alors bon, mais j'ai cherché vite fait comme ça, quoi. Il y a également une série moins connue qui s'appelle Honey West, 65-66, 30 épisodes, en fait, qui a été un essai de réponse américaine à la série anglaise de Avengers qui marchait vachement fort, c'est-à-dire Chapeau Melon et Bob de Cuir, interprété par Anne Francis. C'était la nana qui avait le rôle principal, et il y avait un mec qui était sans faire valoir, qui des fois se déguisait en bonne femme. Bon, ça devait être assez rigolo. Et Anne Francis, pour ce rôle, a eu le Golden Globe en 66. Et à Mod Squad, on en a parlé. Une série un peu plus récente, hein, dont j'ai déjà parlé, dont j'ai dit vachement de bien, mais qui a été interrompue de façon assez dramatique par la mort de son interprète principal, hein, accident de moto. Donc bon, bah, voilà. C'était Mark Frankel. C'était cette histoire de vampire qui s'appelle Kindred Embraced, qu'il avait fait en 96. Il y a eu que 7 épisodes. Outre Mark Frankel, il y avait Chris Thomas Howell, Kelly Rutherford, Sassy Riduk, Patrick Beauchaud et Jeff Cober, une histoire de vampire milieux qui doivent s'allier parce que les humains, ils commencent à leur foutre la paix. Il y a une espèce de statu quo entre les vampires et les humains. On n'en bouffe pas trop.
Ça date de quelle année, ça?
96.
Ça m'a l'air pompé sur le scénario d'un jeu de rôle qui a été édité par White Wolf, qui s'appelle Vampires The Eternal Struggle. Où justement il y a des clans comme ça, où tu as des plutôt nobles, des plutôt allumés, des froids et tout, etc. Et ça y ressemble beaucoup.
Il a également fait entre 75 et 77 une série qui s'appelle SWAT, avec Robert Urich, et une série médicale également, mais alors là qui a eu aucun succès, hein, et en plus c'était à l'époque où tout le monde faisait sa série médicale. Il y avait Chicago Hope qui était diffusé, il y avait Urgence qui était diffusé, les premières saisons. En 95, il nous sort University Hospital, 9 épisodes, et puis dégage, c'est bon, on en a marre, ça suffit.
Très
donc dernier hommage, donc grand hommage à Aaron Spelling, donc qui s'est qui s'est éteint le 23 juin dernier. Allez, on écoute encore...
Oui, en guise d'oraison funèbre, on va passer l'une de ses meilleures séries totalement inoubliables.
Ouais.
Il est à fond, il bat la mesure et tout, etc. Et à moi, je fond, suis mais complètement, mais non, mais je sais que mes petites sœurs vont me dire, ouais, il a quand même passé la musique Beverly Hills. Non,
bah,
je peux pas.
Quand même, bah ouais. Hein. Aaron Spelling, quand même, un énorme succès. Ça va être un de ses plus gros succès, hein, Beverly Hills.
Ouais, c'est clair.
Pas de nouveautés cette semaine dans ce qui concerne les séries. Quand même, on peut jeter un coup d'œil à quelques séries intéressantes parce qu'il y a des épisodes inédits qui vont être diffusés. Par contre, je me suis amusé à vous faire un petit topo en ce qui concerne les séries qui vont être diffusées demain soir en même temps que le match. Hein, donc pour ceux qui n'aiment pas le foot, bah comme ça, je pense que vous serez quand même comblés. La bonne nouvelle, quand même, à mon avis, hein, c'est la rediffusion d'une série qui a été délaissée quand que les producteurs ont abandonné au bout de 22 épisodes, qui était quand même une série estampillée Boschko, Steven Boschko, hein, c'était
le producteur d'Oz.
Fin des non pas du tout, non
je confonds avec qui
c'est le producteur de New York Police Blue.
Oh, pardon.
Voilà, Captain Furio entre autres Boschko, et qui avait sorti cette série qui s'appelle Brooklyn South. Alors si dans New York Police Blue on s'intéresse plus aux inspecteurs, c'est-à-dire aux mecs qui sont en uniforme, en civil qui sont là pour faire respecter l'ordre dans la rue, Brooklyn South, eh bien, est le pendant en bas, c'est-à-dire généralement dans les commissariats américains, les
sergent
inspecteurs, le patron, ils sont à l'étage, et tous les bleus, c'est-à-dire tous ceux qui sont en uniforme, ils sont en bas au rez-de-chaussée, hein, avec les cellules, tout le bordel et tout, et puis le guichet, l'accueil, quoi. Et donc Brooklyn South, ça s'intéresse plutôt à ces personnages. Alors ça démarre hyper fort. Alors, les premières images, les 5 premières minutes de la série, une fusillade qui commence dans le commissariat, qui continue dans la rue et tout, ça pète dans tous les coins, un flic tué, d'autres blessés, enfin bon, un des blacks.
Ça me rappelle un film qui s'appelle. Ça me rappelle un film qui s'appelle Downtown, ça.
À fond dedans, quoi. C'est vraiment hyper prenant. Et après, eh bien, on commence à s'imprégner un petit peu du rythme au quotidien de ce commissariat de Brooklyn South. Donc, mais c'est surtout parce que à l'intérieur du casting, il y a plein de mecs qu'on a déjà vus et qu'on verra plus tard dans d'autres séries. Il y a John Tenney qui est un des rôles principaux. Il y a Adam Rodriguez qu'on a vu également dans Résurrection Boulevard et qui a un rôle récurrent maintenant dans CSI Miami. Il y a également Dylan Walsh, on le présente plus, c'est le docteur McNamara dans Nip Tuck. Il y a Gary Bassabara qu'on a vu dans un autre rôle de flic en bleu, c'est dans Boomtown. James B.C. King, ça c'est le petit coup d'œil, le petit clin d'œil qu'adresse Boschko à ceux qui connaissent un petit peu la télé, parce que James B.C. King est un des personnages récurrents de Hill Street Blues, la première série qui a fait vraiment connaître, avec laquelle Boschko a eu du succès. Et James B.C. King est en fait un des patrons dans l'équipe du Captain Furio. Et là, c'est le patron de Brooklyn South. Donc il y a un petit clin d'œil comme ça, hein, James B.C. King. Il y a également Yonsi Butler, qui a eu son rôle titre dans une autre série qui n'a pas très bien marché, mais bon, c'était dû plus à l'actrice qui avait des problèmes personnels, on va dire, dans la série Witchblade, donc, hein, histoire de la nana mi-sorcière, mi-machin avec son bras, là. Et Titus Welliver, c'est rediffusé. Donc, mais en intégralité, et c'est très important, il faut regarder la série du début jusqu'à la fin, mais dans l'ordre, hein, ça, il y a quand même un ordre, hein, parce que bon, bah, il y a l'histoire personnelle,
c'est sur quelle chaîne,
personnages hein et tout, c'est sur Energy 12 à partir de demain soir, 20h50.
On aura peut-être une chance alors.
Deux épisodes par dimanche. Sinon, demain, New York Session King Criminal, non, c'est pas en concurrence avec la finale, c'est pas possible parce que c'est diffusé sur TF1. Donc, ce sera diffusé après la finale. Le premier épisode, comme d'habitude, c'est un inédit de la saison 5. Ah, il faut savoir que ça marche bien pour New York Section Criminelle, vu qu'une nouvelle saison vient d'être signée, hein, pour un tournage d'une nouvelle saison, hein, New York Section Criminelle. Donc on va continuer à avoir Vincent D'Onofrio, notre Robert Coren favori, hein, notre Sherlock Holmes, qui a d'ailleurs son Moriarty dans la série. C'est marrant parce qu'il y a une nana qu'on voit, ça fait deux fois qu'on la voit, chaque fois elle réussit à le black bouler, à la voir, c'est son Moriarty carrément. Cette nana qui s'appelle Nicole Wallace, il me semble. Alors suivez bien les épisodes, hein, si on tombait sur l'épisode, la nana, elle est bien jouée, hein, de toute façon. Là, l'épisode de demain soir, le inédit, s'appelle La Déchéance. Et dans l'épisode de dimanche dernier, on a vu réapparaître Chris Nutt dans le rôle de l'inspecteur Mike Logan. Mais alors carrément dans l'épisode où on lui file un bout de un coin comme ça avec un bureau, et c'est ça mon bureau. Et puis t'as le patron qui lui fait et regarde, et puis il met la main sur la table, tu vois que le truc est bancal, il dit, et en plus il va falloir le caler. Et tu le vois juste 5 minutes de la fin. Ah ouais, au fait, il y a si ça, enfin jamais vraiment le rôle subalterne à fond, même dans l'épisode de dimanche dernier. Là, dans celui de demain soir qui s'appelle La Déchéance, il va avoir un rôle un petit peu plus conséquent. À mon avis, c'est dû au fait que Vincent D'Onofrio a eu quelques problèmes de santé pendant le tournage, et donc a dû un petit peu alléger. Je pense que les scénaristes ont fait en sorte que ça puisse se passer mieux le temps qu'il recouvre une meilleure santé, Vincent D'Onofrio, et ont mis un petit peu plus le personnage de Chris Nutt en avant, puisque là, il va avoir une nouvelle partenaire qui est d'autre que Annabella Ciora. Pas n'importe qui, mon vieux. Ah, le Chris Nutt, Mr. Big, il sait y faire. Non, donc ça, c'est demain soir après la finale. Donc, alors, on espère qu'il n'y aura pas de prolongation. Voilà, tout simplement.
Sinon, ouais, bah alors, ça veut dire que tu espères que la France va perdre pour pouvoir regarder le match.
Pas forcément, non. Sinon.
Voilà, on vient de lâcher. On vient de lâcher.
Sinon, en concurrence, donc, avec la finale de demain soir, il y a bien entendu sur France 2, Cold Case, encore un épisode inédit. C'est le premier de la saison 2. Demain, à partir de 20h50, il s'appelle Ouvrière de guerre avec Joseph Campanella. Et là, elle remonte carrément en 1943, pendant la guerre. Et un espèce d'accident, une bombe a explosé dans une usine d'armement.
On rappelle que Cold Case, c'est les affaires non résolues. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il parle de remontée. Hein.
Voilà. Et si vous voulez son pendant, ou plutôt la série sur laquelle ça a été pompé, hein, c'est-à-dire la série originale canadienne, Brigade Spéciale, ou Cold Squad en version originale, c'est tous les jeudis, il y a 20h45 sur TMC. Avec jeudi prochain, 3 épisodes. Le premier, Jane Klosky. Le deuxième, La Famille Taggart. Et le troisième, Salty Cheever. Sinon, il y a également 4 Fael, un épisode de demain soir. Bah, c'est la suite. Hein. Il y en a eu 10 de tournée. Donc, 10 téléfilms, 4 Fael le demain soir. C'est Le Moineau du Sanctuaire de 95. C'est sur Paris Première à partir de 20h50 demain soir. On va saluer Paris Première quand même. À moitié, on va dire. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils nous rediffusent. Ça, c'est une excellente nouvelle. Enfin, une série française qui est arrivée à la hauteur, même qui a dépassé certaines séries américaines, ce qui n'est pas peu dire, hein, pour une série française, c'est Police District.
Et, série produite par M6. Voilà, énorme rediff
sur Paris Première, mais, on commence par la saison 3, la dernière, où il n'y a eu que 6 épisodes de tournée, donc on va s'en contenter, hein, mais enfin bon, c'est un demi-satisfait kit, en tout cas, pour Paris Première. C'est lundi à 20h50. Sinon, Criminal Minds, donc cette série dont je t'ai parlé la semaine dernière. Alors j'ai jeté un œil après le match mercredi dernier avec Mandy Patinkin, Shea Marmour, Thomas Gibson. Bon, ça m'a à moitié convaincu, on va dire. Hein. C'est un petit peu de facture trop classique, on va dire, avec toujours de temps en temps, enfin rarement, mais cette propension qu'on a de plus en plus, surtout dans les séries américaines, à vouloir montrer une certaine violence, mais gratuitement, si tu veux, quoi. Des images qui s'imposent pas, on te les présente comme un quand même. pour appuyer.
Attention,
un petit peu.
Effet spécial.
Bon, c'est non, ou tu sais, des trucs bien dégoulinants. Ah, t'as vu là le squelette, t'as un truc qui dégouline. Ah bon. Enfin bon. Bon,
c'est Madame, ça, c'est Madame Colombo qui rédige tes chroniques. Ou quoi?
Ah non, pas du tout. Hein, non, elle regarde même pas.
Ah oui, d'accord.
Donc à voir encore, hein, parce qu'il y a Mandy Patinkin, bien sûr. C'est mercredi prochain sur TF1 à 23h15, hein, parce que bon, ben c'est du lourd quand même. Ça n'est c'est justifié, l'horaire est quand même justifié. Sinon, Superman, sais-tu qu'il y a eu, avant Lois Lane, dans les années 50, et à la suite du premier film sur Superman, une série qui s'appelait Adventure of Superman.
Moi, je me souviens de la série animée des Frères Fleischer, années 40.
La série, hein, série de 51 à 57.
Ah, mais alors, c'était peut-être ce qu'on appelle les 50s, c'est-à-dire les films.
51 à 57, c'est les 50s.
Non, les pénis, pardon. C'est les films qu'on diffusait en série dans les salles, obscures. C'était pas
peut-être.
Une série télé.
Si, me semble-t-il, parce que ça a été diffusé sur les chaînes américaines. Hein, je crois que c'est Warner, il me semble, quoi, au départ, quoi, justement. En tout cas, interprété par George Reeves, qui avait tenu le rôle au cinéma, et donc ils ont vu que le film avait plus ou moins marché, ils se sont dit putain, on va faire une série cool. Et tout. George Reeves, qui a pratiquement le même nom hein, que Christopher. Hein, t'as vu, un S près, quoi. Eh ben, c'était le même.
Faut voir
et
ce qu'il
a connu.
A fini.
À part ce rôle, je veux dire, de Superman, il a rien eu, toujours des seconds rôles et tout. Il s'est suicidé en 59 à l'âge de 45 ans. 104 épisodes quand même de 25 minutes ont été tournés hein, de ces Adventures of Superman, dont 52 en couleur. Et c'est peut-être pour ça que Sci-Fi Channel nous diffuse ces épisodes, mais à partir de la saison 3. 5 épisodes donc vendredi prochain, vendredi 14 juillet. À la suite de la saison 3 en version originale quand même s'il vous plaît, donc c'est à regarder à tout prix. Et si vous tenez absolument à voir James Stanton, vous savez le plombier vachement cool qui a une petite amourette avec Terry Hatcher dans Desperate Housewife. Il est cool, il est beau, aïe aïe aïe. Si vous voulez voir en super facho gros connard que c'est pas permis, c'est dans Agence Matrix sur TF6 tous les vendredis à 20h50.
Cette série, c'est une honte.
T'as vu comment
c'est faf, mais à mort. Mais à côté NCIS, c'est
ouais,
de gauche, quoi.
Ouais, exactement.
C'est ignoble. C'est ignoble. C'est franchement la justification d'une violence gratuite, étatique et fascisante. Soi-disant pour contrer le terrorisme. Mais putain, mais c'est une honte, cette série, quoi. Mais bon, mais quand je vois quand même comment George Bush s'en prend plein la gueule sur dans les talk-shows américains hier notamment, il y a Conan O'Brien qui s'est bien foutu de sa gueule, ça fait du bien.
Ok, quelques petits films pour terminer avec des films de couilles, l'action et tout quoi, avec des super-héros. Des super mecs, L'arme parfaite déjà de Mark Dissal, ça c'est un classique, hein, de Jeff Speakman, tu connais Jeff Speakman quand même. On va pas me dire tu connais pas Jeff Speakman. Voilà, dans ce film.
Là tu parles dans le vide. Hein.
Dans ce film, il combat, c'est une histoire de vengeance comme d'habitude, hein, de toute façon.
Il est pas content.
Et il va tous leur niquer la tête à James Hong. Il y a Mako hein, qui est là pour faire de la figuration.
Ah coucou.
Et c'est diffusé ce soir sur RTL9 à 22h25. Sinon, demain soir sur RTL9 également, ah ouais, un bon tête poste de 79 tête poste, c'est quand même le mec qui nous a fait pendre les hauts et courts hein, avec Clint Eastwood. Et là,
et
il
oui.
s'agit du commando des Tigres Noirs avec Chuck Norris, avec Ann Archer, Dana Andrew. Là, il devait être.
Ah, mais alors, c'est bien après Pandéo et Cours.
Et,
hein.
Bah ouais, 79 Pandéo et Cours, c'est en 70, c'est avant Inspecteur Harry. Et James Franciscus, mon petit gars, demain soir à 22h35
yes.
sur RTL9. Sinon, je vais trouver Action Jackson.
Oh non.
Si.
Oh non, il l'a retrouvé.
Action Jackson, c'est lundi soir à 22h20.
C'est un running gag. Hein.
Sur la chaîne Action. Non, c'est pas un running gag. Hein.
C'est horrible.
Excellent film avec Carl Weathers. Et c'est juste après le film Opération Phoenix Ninja, un film taïwanais de 84.
Taïwanais, parce que déjà quand tu mets ninja,
action.
Ça fait peur. Alors c'est...
Mardi, un bon petit film de Pamela Anderson qui s'appelle Barb Wire.
Bonjour, je suis une héroïne de comics.
Ouais, réalisé en 96 par David Hogan. Alors rien que le générique de début, ne loupez pas le générique de début parce que là ça vaut le coup, vraiment c'est excellent, c'est très bon. Il y a également...
C'est une alerte Nibar.
Ah, pas que Nibar.
Alerte à Nibarland.
C'est terrible, terrible, c'est terrible. Et à l'époque, elle avait pas les super gros bonnets. Elle avait un petit peu plus que la normale, mais enfin bon, ça allait encore, si tu veux. À l'époque. Après, elle s'en est mis en des encore plus gros. Et là, bon, là, c'était trop gros.
C'est,
quoi,
c'est le problème. C'est comme la drogue. Tu commences, tu sais plus où tu t'en
mets. Ouais, mais t'es obligé, quoi, en fait. T'as bien vu Nip Tuck. Pamela Anderson, le pendant masculin, c'était Moira Morrison, qui avait explosé dans le film L'âme des guerriers, de Lita Maury, hein. Et puis après, qui a fait plus que des merdes. Pratiquement. Steve Railsback, également un abonné des excellents rôles de série B ou série Z. C'est sur TPS Cinestar mardi prochain. Mardi également, ouais, pour ceux qui ont envie de rester super sérieux et tout, genre limite un télo et tout, une soirée Altman, mon gars, sur Ciné Cinéma Auteur en plus, avec tout d'abord un gros classique de Altman, Le Privé de 73 avec Elliot Gould à 21h.
Très grand.
Et après un film moins connu, quoique vachement plus récent, Vincent et Théo à 22h50, un film de 90 avec Tim Roth et Paul Rice. La vie des deux frangins Van Gogh.
C'est vrai.
Voilà. Et ouais. D'ailleurs, j'ai revu il y a pas longtemps le Vincent Van Gogh de Minelli là, tu sais, avec Kirk Douglas, avec dans le rôle excellent, hein, en version
impressionnant.
Impressionnant, ouais,
film avec les teintes technicolores et tout ça.
La bonne dope de la semaine, ça doit quand même être, à mon avis, La Chasse au requin tueur. C'est un téléfilm allemand de Georg Papavassiliou. Avec quand même Ralph Möller, rappelle-toi de Ralph Möller, c'est l'espèce de grand biscotto que t'as dans Gladiator là, qui est copain avec Russell Crowe. Je sais pas si tu vois quoi, le mec qui a été pressenti pour remplacer Arnold Schwarzenegger, c'est un nouveau Arnold Schwarzenegger, un mec monsieur muscle.
Sauf
tout,
que lui il est allemand, il est pas autrichien quoi.
Et là il se retrouve quand même. Gladiator, ça a été tourné quand là en 2003, il fait quand même La Chasse au requin tueur, un requin qui sévit à Majorque avec Oana Deville Ibish et Julia Stinsoff. C'est mardi à 20h45 sur W9. À mercredi, il n'y a pas de télé, ça n'existe pas la télé, il y a Superman au cinéma. Voilà. C'est tout.
Très bien.
Hein, ok.
Très bien. Mais qu'est-ce que donc? C'est un oiseau, une fusée, un avion.
Non, c'est Superman.
Non, c'est un slip volant.
Voilà. Donc, mercredi.
Ceci dit, Superman n'a pas de super critique. Et truc très important, c'est-à-dire
bon,
que...
Bon, on s'en fout des critiques.
Sur les talk shows américains, on ne voit que Lex Luthor.
Ouais.
Il y a que Lex Luthor qui est invité. Le Superman, oh, c'est un petit jeune et tout, on s'en fout. Allez hop.
Ben ouais, c'est pas charismatique, on s'intéresse personne, hein, tu vois, quoi, c'est ça. Hein. Jeudi donc, alors là, pas mal, une bonne soirée qui commence avec encore un Chuck Norris. Ah ouais, Force One de 80 avec Jennifer O'Neill également. C'est sur TPS In Extreme, jeudi prochain à 21h. Mais par contre, après, à 22h30, un grand film de Denis Hopper, Colors de 88.
Grand.
Avec Sean Penn, Robert Duvall et Maria Conchita Alonso, entre autres. C'est jeudi
et
prochain.
Et Ice-T à la musique.
Ouais, entre autres.
Très
aussi.
Fort.
Très bon. Il m'en reste deux. Jeudi prochain également sur TF6. Celui-là, je pense que je vais me le taper parce qu'il a l'air pas trop mal. Hein. C'est con, il est un peu tard, 22h45. Jeudi prochain sur TF6. Un téléfilm qui s'appelle Embuscade. C'est surtout le casting qui m'intéresse, si tu vois ce que je veux dire. C'est un Ernest Dickerson, donc c'est pas mal. C'est le mec qui a fait un truc avec Ice-T aussi et Ice Cube, les deux dans le même film. Je me rappelle pas comment il s'appelle. Et il a fait pas mal de films dans ce genre-là. Ça, c'est de 98 avec Courtney B. Vance. Courtney B. Vance, bah, c'est l'assistant procureur dans New York Section Criminelle.
Eh oui,
tu sais, dans le générique, c'est le mec qui tient le couteau. Là. Le mec qui tient un couteau comme ça. C'est Courtney B. Vance. Bah ouais. Il y a également William Forsythe. Et il y a Virginia Madsen. Voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. Et Robert Patrick. Et bah, Robert Patrick.
Il y a quand même du monde.
Ouais. Bon, bah, ça peut être quelque chose. Jeudi prochain, sur TF6 à 22h45. Et sinon, on terminera vendredi prochain sur CinéFX, un chef-d'œuvre, tout simplement, hein. Les Maîtres du Temps de René Laloux, 82.
Grandiose. En coproduction, on en a parlé tout à l'heure avec Moebius. Il y avait aussi, il y avait vraiment une crème de dessinateurs, c'est énorme. Et CinéFX l'avait déjà passé, mais c'est vrai qu'il ne faut pas le louper. C'est l'un des meilleurs films de SF français, quoi.
Mais ouais, si vous l'avez pas vu, je sais pas quoi. Là, il vous manque une case, là, vraiment, quoi.
Parce que c'est vraiment l'époque métal hurlant, flamboyant, avec un scénario absolument gigantesque, avec une galerie de personnages énorme, et vraiment une production grandiose. Topor. J'ai oublié de dire
Topor.
C'est quelque chose à si on
Non, non, je ne peux pas envisager que quelqu'un qui a un minimum de culture BD, qui a un minimum de culture fantastique, puisse louper ça, puisque c'est un film qui a vraiment inspiré, puisque c'est comme ça qu'ils ont recruté Moebius pour faire Tron et tout ce genre de film. Enfin voilà quoi, c'est grand. C'est très grand.
Oh bah c'est tout, hein.
Générique.
Tu vois ?
Ah ouais, mais là. Là aussi, c'est un voyage à travers le temps en plus, hein. Puisque. Non, spoiler. Faut pas. Mais c'est tellement bon. Eh, mais je pensais qu'il y avait un fondu sur la fin, mince. Bon. Et c'est ainsi que se termine le supplément week-end de samedi 8 juillet 2006. Et demain, faites pas trop de bruit. Merci, j'essaierai de dormir relativement tôt. Non, je rigole, je suis en vacances. Allez hop, ça y va. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz. Si vous voulez réécouter l'intégrale de supplément week-end, vous dire ah non, mais j'ai pas compris tous les blagues là qu'ils ont dit à l'antenne, ou je voudrais comprendre un petit peu les références, ou bien. Pourquoi pas se dire ah oh mais non là ils ont dit n'importe quoi, je ne suis absolument pas d'accord avec eux, Beverly Hills n'est pas une bouse immonde et un film, est une série télé totalement méconnue, vous allez sur Radio FMR www.radio-fmr.net et vous allez dans la partie supplément week-end, vous allez sur pataphysique.net, pataphysique.net, et vous verrez il y a des chroniques cinéma en pagaille, culinaire et tout le reste, et littérature, et au milieu il y a les nôtres avec nos émissions qui sont à réécouter en intégralité, où vous tapez supplément week-end FMR MP3 aussi, ça marche. Et vous pouvez carrément vous abonner, c'est-à-dire que si vous avez un logiciel propriétaire comme iTunes ou plus ouvert comme Lemon Juice, eh bien vous êtes automatiquement, vous recevez l'émission et vous pouvez la réécouter tranquille chez vous, à la plage, au bureau, comme vous le sentez. Oui, c'est ça. Vive les bonheurs de la technique. Et la suite des programmes sur Radio FMR, ça c'est du sport de suite, 15h du reggae avec Zarma Farai, 17h en mode progression. 18h, vie d'ordure, c'est du punk. 20h, la C0 expérience, c'est de l'électro. 21h30, Liquid Sky, c'est aussi l'électro bien marré. 23h, Breakbeat expérience, c'est de Jungle Drum and Bass. Et c'est jusqu'à, ouais, théoriquement, 5h du matin sur FMR 89.1 MHz. On est en direct et pourquoi pas en public, mais en tout cas beaucoup en sueur. Ce soir, soirée CFIU, le concert qui va avec est présenté par Anticiprod. Et amicalement soutenu par Radio FMR, c'est au Ragtime, place Arnaud Bernard, c'est à partir de 22h, donc voilà, première partie, Islam, Kof, Bibo, Homo Sapiens et Qatar. Rendez-vous samedi prochain sur 89.1, peut-être qu'il y aura Thomas et peut-être qu'on vous parlera de Superman. Je vous laisse de suite avec du sport beaucoup moins dopé.